Une région est à la fois un périmètre géographique, mais aussi un objet politique pas toujours identifié. La fusion Auvergne-Rhône-Alpes nous met face à cet enjeu et à cette réalité, ainsi qu'à une question de stratégie syndicale. Donc nous avons invité pour cette nouvelle émission de Radio CGT, Jacques Perra, économiste à la CGT, qui va nous aider à y voir plus clair. Bonjour Jacques, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, eh bien, je suis effectivement économiste. J'ai été embauché par le premier secrétaire de la région CGT lors de sa création, quelques années après sa création, pour essayer de mettre en place une association qui permettrait aux syndicalistes de mieux s'approprier les questions qui devenaient à l'ordre du jour avec cette régionalisation qui s'amplifiait. Donc la CGT, quand elle a créé les comités régionaux en 1969, c'était en fait pour assurer une légitimité à ses représentants qui siégeaient dans des structures. Alors les premières avaient été mises en place dans les années 60, dans toute la période où la décentralisation a démarré, après les travaux qui fustigeaient la trop grande centralisation sur la région parisienne. Et donc, par exemple, il a été créé des commissions de développement économique régional, les CODER. Et donc, le secrétaire, Joseph Jacquet, le secrétaire de l'époque, siégeait dans cette commission de développement. Ensuite, en 1972, ont été créés les comités économiques et sociaux régionaux, et qui sont devenus en 1992 conseils économiques et sociaux régionaux. Et en 2010, conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Voilà. Et donc, la démarche de création de cette association visait à faciliter l'appropriation syndicale de ces questions qui se complexifiaient au fur et à mesure que la région politique avait de nouvelles compétences.
On voit que tu as vécu toute cette période. Est-ce que tu peux nous dire historiquement, enfin justement depuis les années 70, comment les régions sont devenues un objet politique ?
Alors, elles sont devenues un objet politique peu à peu. Ça a été une longue construction. Alors, je ne peux pas reprendre toutes les lois de décentralisation parce qu'il y en a eu tout un tas avec petit à petit un transfert de compétences. D'ailleurs, ce transfert de compétences, il s'est fait aussi sur les services régionaux de l'État, ce qu'on appelle la déconcentration. La décentralisation, c'est plus de pouvoir aux régions et aux autres collectivités, d'ailleurs. Et puis la déconcentration, c'est plus de pouvoir aux éléments qui, sur le terrain, représentent l'État, en fait. On peut dire que jusqu'au gouvernement Sarkozy, on a eu une amplification de la régionalisation et des compétences qui ont été transférées. Et puis, quand Sarkozy est arrivé, et Hollande ensuite, on a eu une reprise en main par l'État, et avec, par exemple, ce qui s'appelait la clause de compétence générale qui avait été attribuée aux régions et qui, à ce moment-là, a été supprimée. Ça voulait dire que les régions ne pouvaient plus s'occuper de ce qu'elles avaient envie de s'occuper, mais elles étaient tenues par des prérogatives concédées par la loi. Et puis, l'autre réforme importante, c'est la réforme fiscale, qui est compliquée à exposer, mais qui en fait enlève tout pouvoir décisionnel des régions sur leurs ressources. En fait, depuis cette date, depuis la 2014 et 2016 confirmée par la réforme de 2016, eh bien les régions n'ont plus de contrôle de leurs ressources, elles dépendent entièrement de la volonté de l'État. Alors aujourd'hui, on vit encore une autre période. Depuis le précédent quinquennat Macron, puisque depuis son précédent quinquennat, et il va certainement aller plus loin avec le quinquennat actuel, eh bien, il voulait aller plus loin dans une situation très contradictoire, puisqu'en même temps, il affirme constamment et de plus en plus fortement son pouvoir sur les décisions de financement, le but étant de réduire les financements qui s'étaient multipliés au fil du temps, notamment l'embauche de fonctionnaires territoriaux qui répondaient à un certain nombre de besoins. Et donc ça coûtait trop cher aux yeux de... C'est un pognon de dingue qu'il faut arrêter de donner dans la satisfaction des besoins. Et puis en même temps, ce qui est contradictoire, mais qui n'est pas tant contradictoire que ça si on l'analyse bien, l'État va ouvrir la boîte de Pandore de la différenciation territoriale, ce qui va encore plus loin que la régionalisation, en fait, puisque chaque collectivité, c'est pas seulement les régions, jusqu'au niveau des territoires, en théorie, chaque collectivité peut faire son règlement et peut-être même faire sa loi, avec quelques garanties nationales quand même, mais on est quand même dans un changement de période, puisque on était déjà sorti du modèle républicain parce que les régions, d'une région à l'autre, n'appliquaient pas les mêmes politiques. Les citoyens d'une région à l'autre n'étaient pas traités de la même façon. Les livres scolaires, par exemple, qui étaient gratuits, pas gratuits, à moitié gratuits. Les tarifs des TER, etc. Aujourd'hui, on sort complètement, constitutionnellement, on pourrait dire, du modèle républicain.
D'un côté, on a l'impression d'une recentralisation d'un point de vue budgétaire et même d'un point de vue d'autres politiques où les collectivités sont plus que des sous-traitants de décisions prises au niveau national. Et en même temps, comme dirait l'autre, toute une possibilité de dérogation. Mais on reviendra après là-dessus, justement, sur la question de ces dérogations, en quoi elles répondent aux attentes du capital. Mais avant d'arriver là, est-ce qu'on peut venir sur un peu parler des compétences régionales et de la place de la région dans ces politiques publiques ?
Alors, les interventions régionales, on peut dire que c'est au fil du temps, les régions ont financé de plus en plus, on peut dire, une amélioration de la réponse aux besoins, incontestablement. Dans différents domaines qui lui ont été transférés. Par exemple, la construction de lycées ou la rénovation de lycées. Il y a eu beaucoup plus de lycées construits que quand ils étaient dépendants seulement de l'État. Pareil pour les transports de voyageurs, puisque là, les TER, hein, les trains express régionaux, chaque région en a eu, après une période d'expérimentation d'ailleurs, ça a été généralisé comme compétence de toutes les régions. Donc on voit bien que il y a eu une amélioration de la réponse aux besoins, qui a quand même été financée par une augmentation de la fiscalité et de l'emprunt. Cette fiscalité régionale, par exemple, n'existait pas. Avant les premières lois de décentralisation, il n'y avait pas de fiscalité régionale. Et cette fiscalité régionale, elle a augmenté constamment. Si on regarde 2022, le budget régional primitif, c'est près de 4 milliards d'euros. C'est bien moins qu'une région comme la Catalogne ou la Lombardie ou comme un land allemand, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Et là-dedans, il y a 1,38 milliard de dépenses d'investissement qui vont donc générer des dépenses de fonctionnement, des embauches et dans des domaines essentiels de la vie des habitants et des salariés. L'économie, la recherche, l'éducation, je parlais des lycées, l'apprentissage et la formation professionnelle, donc les transports scolaires, l'aménagement du territoire et de plus en plus la santé. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable dans la vie de tous les jours.
Oui, puis si on rajoute, je me fais permettre une petite parenthèse, la question des schémas qui sont prescriptifs pour les autres collectivités, comme le schéma sur l'aménagement du territoire, le joli SRADET, ou le schéma sur l'économie qui impose après aux autres collectivités. On voit le poids de la région sur la vie des habitants, alors soit de façon directe, soit indirecte. On va revenir, je l'avais promis.
Non, on peut rajouter quelque chose sur l'histoire des schémas, parce que c'est important de montrer que ces interventions régionales qui sont importantes, elles sont quand même difficilement lisibles. Et l'histoire des schémas, là, ça joue parce que ça fragmente, en fait, l'intervention régionale. Alors, c'est vrai qu'elle se fait dans une interaction avec d'autres niveaux. C'est ça qui rend difficilement lisible. D'abord, avec l'État, parce qu'il y a le contrat de plan État-région. Il y a des budgets qui sont attribués. Il y a l'Europe qui finance pas mal de choses avec des montants importants, mais avec des critères définis par l'Europe. Et puis, il y a cette imbrication avec les autres collectivités. Et on voit par exemple que pour une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, l'articulation avec les métropoles, elle n'est pas si évidente que ça. Sur le domaine économique, par exemple, il y a des empiétements manifestes de compétences. Donc tout ça n'aide pas à ce que les gens se positionnent par rapport à leur vie de tous les jours, positionnent le niveau régional comme un intervenant important.
D'où tous les panneaux de Laurent Wauquiez dans toutes les communes, sur les arbres, les ronds-points, les lycées, etc., etc., pour rappeler que c'est la région qui donne les sous. Nous vous proposons une petite pause musicale avec Rachida, Douce France, avant de retrouver Jacques pour continuer la discussion autour de la région.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
On revient sur la question des dérogations et des exceptions. Donc, on a vraiment l'impression que les milieux économiques poussent sur la prépondérance du fait régional. Est-ce que la question de déroger à tout un tas de règles ne pèserait pas dans ce choix du capital ?
Oui, c'est un peu compliqué là aussi. C'est pas manifestement lisible. En fait, la question posée là, c'est la région institutionnelle, elle est au service du capital ou elle est au service des besoins, quoi. Alors la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Manifestement, la balance penche du côté du capital. C'est évident, il n'y a qu'à regarder les chiffres, ce qui est attribué aux entreprises et puis ce qui est demandé aux citoyens et aux contribuables. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Après, c'est compliqué parce que la CGT, elle a beaucoup hésité, tergiversé dans son positionnement par rapport aux régions. Mais le capital aussi, c'est pas C'est pas si simple au niveau du MEDEF régional ou des représentants des PME ou des artisans. Il y a aussi là une attitude contradictoire. C'est qu'en même temps, le capital, il a besoin d'un branchement sur des ressources territorialisées, sur des ressources réelles, des compétences, des terrains, des immeubles, des autorisations administratives, des réglementations du travail. Voilà.
Des subventions aussi.
Beaucoup de subventions, évidemment. Alors c'est la partie émergée de l'iceberg, l'argent. Oui. C'est énorme. Et par exemple, avec les plans de relance, c'est énormément d'argent. Le plan France 2030, c'est encore plus d'argent. Donc là, il y a de l'argent. Ce qui est plus compliqué à identifier, c'est que ça peut servir à impulser des évolutions dans un sens ou dans un autre. Et on peut dire qu'effectivement, dans cette contradiction où l'État en même temps reprend la main, mais il reprend la main pour qu'il y ait moins d'État, moins de services publics, moins de fonctionnaires, moins de satisfaction des besoins sociaux de base, et en même temps, il laisse la porte ouverte, en fait, aux intérêts privés, d'où la différenciation qui va exprimer la différenciation des besoins des intérêts privés. Donc, du capital. On peut prendre l'exemple de l'industrie automobile qui est en pleine restructuration. Le plan de relance, il a déjà financé à peu près 90 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes sur 300 dossiers, je pense. Oui, 90 sur 300 à peu près. Le plan de 2030, c'est des financements beaucoup plus supérieurs. Et en même temps, quand on prend des exemples concrets, on s'aperçoit que ce financement, il va à des entreprises qui remettent en cause la concurrence entre les entreprises existantes. C'est par exemple la start-up qui a été créée entre Michelin et Faurecia. Faurecia qui est un grand équipementier automobile, comme Michelin d'ailleurs. Ils ont créé ensemble une start-up pour travailler sur les moteurs à hydrogène. Et là, donc, ils reçoivent du financement. Et en même temps, on leur offre un terrain avec une dérogation d'implantation. Alors ça, c'est le domaine simplification de la loi, puisque quatre localités en Auvergne-Rhône-Alpes ont été choisies pour accueillir ce type d'implantation industrielle clé en main. Alors en passant outre à tout un tas de réglementations, la dépollution par exemple, ou les recherches archéologiques préventives.
Et la loi sur l'eau.
La loi sur l'eau, en fait c'est le préfet. Ouais. Je reviens là-dessus pour dire que déjà depuis plusieurs années en arrière, la loi elle a été votée en début d'année, la loi 3DS, la simplification et puis différenciation territoriale. Mais déjà en 2020, les préfets avaient le droit de déroger aux règlements nationaux comme ils l'entendaient pour adapter les positions de l'État aux besoins des acteurs locaux. Des acteurs locaux, entendez, du capital, parce que c'est rarement les organisations syndicales qui obtiennent satisfaction dans ce genre de dossier. Voilà. Donc on voit bien là, avec des exemples concrets, et puis l'étape suivante, alors ça c'est moi qui m'avance peut-être un peu, mais je pense que c'est la trajectoire normale, eh bien, ça sera des conditions d'emploi et de travail adaptées localement. Quand on regarde ce que fait Laurent Wauquiez, il offre une possibilité d'implantation aux industriels clé en main sur l'ensemble de ces exigences. Terrain, financement, formation professionnelle, trouver la main-d'œuvre nécessaire, faire quelque chose pour les conjoints qui veulent déménager et tout ça. Donc c'est un pack. Un pack investissement, un pack localisation. Et dans ce pack localisation, on peut très bien imaginer qu'un jour, il y aura un SMIC régional, un salaire minimum Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans d'autres régions qui sont moins favorisées, je voyais dans les échos, il y a une carte là, il y a la région parisienne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les autres ont des revenus inférieurs. Donc dans ces autres régions, on va baisser le SMIC. Avec des raisons. Pour suivre la dynamique économique, on est obligé d'y passer. Et ça sera rendu possible par cette fameuse loi qui ouvre les vannes, qui ouvre une boîte de Pandore, là, à une différenciation au coup par coup, sur mesure, en juste à temps pour le capital.
C'est un peu comme ils ont fait au niveau de la formation professionnelle où maintenant, enfin, où les entreprises peuvent créer des diplômes internes ou ouvrir des centres de formation d'apprentissage grassement subventionnés par l'argent public, mais qui n'est qu'au service d'eux-mêmes, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est compliqué, c'est de suivre que c'est, les différentes lois qui sont votées, elles ont une cohérence. D'ailleurs, souvent, dans une loi qui est, par exemple, sur la formation professionnelle, on va trouver un alinéa, quelque part, un article qui aura tout autre domaine d'application, mais on l'aura mis ici pour le faire passer. Et en fait, il y a une cohérence d'ensemble, et la formation professionnelle, c'est un très bon exemple, parce qu'on voit bien. Mais alors d'ailleurs, pour revenir à l'automobile, là, comme il y a effectivement un problème de main-d'œuvre pour suivre ces évolutions qui vont très vite, eh bien, les grandes entreprises créent leur propre université, notamment pour leurs cadres, pour aller plus vite au niveau de la numérisation, de l'informatisation, des services individuels aux clients. Et là, il faut des gens hyper formés. La question qu'on peut se poser, c'est que deviennent les gens qui sont moins formés, qui jusqu'à maintenant pouvaient trouver encore un emploi, y compris dans les basses classifications de la grille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de qualification d'ailleurs, parce qu'elle était souvent très, très sous-évaluée. Mais que vont devenir tous ces salariés dans une société où la place n'est que pour les premiers de cordée?
Oui. Oui, c'est un vrai enjeu, d'autant plus que la région mise beaucoup sur l'excellence et sur tout ce qui est start-up, etc., au détriment de l'industrie qui existait plus traditionnelle. Enfin, on peut penser, je ne sais pas moi, tout ce qui est métallurgie, agroalimentaire. Enfin, dans plan de relance, j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir sur le site internet de la CGT Aura toute la liste des entreprises soutenues. On voit qu'il y a, en agroalimentaire, des choses sur la viande sans animaux, les insectes qu'on va manger. Donc, c'est des toutes petites start-up. Et à côté de ça, toute l'industrie agroalimentaire. Moi, je viens de la Drôme, donc tout ce qui est compote, confiture, où il y a énormément d'emplois très mal payés, ben là, il y a pas d'aide, quoi. On les laisse face à la concurrence mondiale. Donc, on est vraiment confronté à ces deux logiques. Une région qui est excellente et qui laisse de côté les entreprises qui ne sont pas des start-up et les plus pauvres qui rentrent pas dans le jeu.
Oui, parce que ça c'est une idée qu'on peut détricoter et aller très loin. On peut aller très loin avec, effectivement. C'est tout à fait la philosophie actuelle de l'intervention publique. Et c'est, on peut dire qu'à terme, c'est catastrophique. C'est vraiment, il y a effectivement un nouveau soutien, une politique industrielle. Il y a une politique industrielle, mais elle est hyper sélective. Elle est sur des briques technologiques, elle est sur les acteurs qui pourront se positionner sur ces nouvelles briques technologiques, ces nouvelles opportunités de se placer dans la guerre des places de la concurrence mondiale, avec des nouveaux entrants sur l'automobile, mais sur d'autres aspects aussi, Amazon, Google, Tesla, qui n'avait jamais fait de voiture jusqu'à maintenant et qui concurrence les constructeurs classiques. Ça va même jusqu'à ce que cette volonté d'hyper spécialiser, Renault et Peugeot, comme d'autres groupes l'ont fait en Europe ou sont en train de le faire dans le monde, sont en train de filialiser leurs activités de pointe, les activités électriques par exemple, et vont faire une holding. Il y aura les boîtes électriques qui vont rester en France et les boîtes qui continuent, parce qu'il faudra bien continuer à faire des moteurs thermiques qui vont se vendre dans le reste du monde et puis remplacer les voitures qui arrivent en bout de course. Et donc, ce sera des filiales qui seront souvent domiciliées à l'étranger. Donc, on voit que. Et donc, et même les experts du secteur trouvent que c'est une énorme erreur parce que, en fait, un développement économique, ça se fait par une symbiose entre des savoir-faire existants et qui sont complètement capable de s'adapter, parce que les salariés, ils sont capables de s'adapter à tout, ils le montrent tous les jours dans les entreprises. Donc à la limite, on ne devrait jamais fermer une entreprise, même si des activités sont condamnées par les évolutions environnementales et sociétales, on ne devrait jamais fermer une entreprise, parce que les salariés, ils savent très bien s'adapter pour faire quelque chose de plus en phase avec les exigences de la société. Et là, donc, par exemple, on a une coupure entre le savoir-faire nouveau dans le véhicule électrique et le savoir-faire ancien, qui était de savoir faire fonctionner un véhicule global. Et c'est là-dessus que butent ceux qui sont en train d'expérimenter les voitures autonomes, d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas du tout ce savoir-faire-là. Ils se sont concentrés sur un savoir-faire nouveau, mais qui, coupé de toute cette expérimentation, eh ben alors, les emmène à des catastrophes, à écraser des gens et à rentrer dans des batailles juridiques. Et donc, c'est une absurdité de séparer des activités construction de voitures classiques et introduction d'un moteur électrique, voire d'un système informatique qui met le client en rapport avec son constructeur. Donc, il y a là des choix purement capitalistiques, purement de profit rapide qui s'opposent en fait à ce qui pourrait être une évolution sociétale intéressante en utilisant le savoir-faire existant de tous ces salariés qui l'ont accumulé depuis que l'automobile a été inventée.
Excellente transition. Donc, on parle réponse aux besoins, comme tu nous le dis. Et donc, ce qui est un peu le cœur de métier de la CGT, à partir de ces régions qui, à la fois, traitent de sujets essentiels, on voit qu'ils sont aussi au service d'intérêts financiers, d'intérêts particuliers, voire parfois clientélistes, n'ayons pas peur de le dire. Quelle peut être la stratégie syndicale que nous pourrions adopter ?
Alors, déjà, moi, ce que j'ai vécu donc, depuis la création des régions CGT, même si j'ai été embauché que quelques années après, 5 ou 6 ans, pas plus, c'est que d'abord, la CGT, elle a toujours eu du mal à s'approprier cette question régionale, parce qu'en fait, comme tout le monde, on a du mal à s'approprier l'importance réelle de la région institutionnelle, quoi. Si c'était si clair que ça, il y aurait une réponse syndicale claire en face. Or, ce n'est pas si clair, on voit bien que c'est compliqué. En même temps, c'est des milliards d'investissements. En même temps, c'est beaucoup moins que des régions européennes qui ont beaucoup plus de prérogatives. Donc on est toujours dans cet entre-deux, avec une CGT qui par sa création, a été constituée pour défendre le salariat dans l'ensemble du pays, et puis très centrée, très organisée autour de professions, de métiers, effectivement. Donc cette dimension territoriale, elle ne va pas de soi. Et par contre, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec des régions qui sont montées en puissance et qui sont placées dans cette situation où elles vont, d'abord, elles influencent déjà la vie quotidienne par leurs dépenses qu'on a évoquées, hein, sur tous les aspects de la vie concrète. Et puis, elles vont peser sur l'évolution du droit du travail, y compris. Hein, on a parlé de la formation professionnelle, mais bon, Wauquiez, comme d'autres présidents de région, veulent s'approprier complètement Pôle emploi, par exemple, pour avoir la maîtrise complète de ce qu'on peut offrir au capital. Bon, en même temps, encore une fois, comme l'État, la région, ce n'est pas simplement la voie du capital, c'est plus compliqué que ça. C'est le résultat d'un rapport de force, comme toutes les institutions, par définition. Une institution, c'est le résultat d'un rapport de force qui édicte un compromis qui se maintient plus ou moins. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien, on peut d'abord essayer de davantage prendre la mesure de ce qui se passe réellement. Donc c'était un peu le travail qu'on a fait au niveau du comité régional sur le plan de relance, c'est d'essayer de mesurer combien ça coûtait, quelle était la part que pouvaient toucher les entreprises de la région, les différentes activités concernées, sur quoi ça portait. Déjà avoir une vision un peu plus juste de ce qui se passe réellement. Après, ça demande à se structurer pour répondre à cette situation qui est confuse, mais qu'on peut aider à clarifier par l'organisation de nos projets revendicatifs, avec le rôle de du comité régional CGT, c'est d'organiser en fait effectivement l'appropriation de ces questions, de réfléchir dans une démarche d'anticipation à qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, et puis de trouver des leviers d'intervention. Voilà, ce qui n'est pas forcément simple, mais bon, la conférence régionale qui s'est tenue récemment a s'est mise à l'unanimité d'accord sur une feuille de route. Et là, on a donc des axes qui sont tracés pour essayer de travailler au niveau régional. Travailler au niveau régional, pour une organisation syndicale, ça veut dire essayer de mettre en tas nos structures dans les différents départements et nos structures dans les différentes professions qui sont organisées au niveau régional. Toutes ne le sont pas, mais quand même un certain nombre de professions importantes le sont. Donc comment on articule cette réflexion mutuelle, territoriale et professionnelle pour eh bien, définir des axes d'intervention qui puissent structurer des projets revendicatifs qui seront défendus sur les lieux de travail, au niveau institutionnel, y compris au Conseil économique et social et environnemental régional. Après, moi, je pense que on a ce gros boulot de coordination qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas simple du tout, mais on sait faire parce que c'est en fait le comité régional, il a toujours eu ce rôle de coordination, même si c'est compliqué. Donc on ne peut pas ignorer la réalité régionale, il faut la connaître davantage, se l'approprier davantage. Après, moi, mais ça c'est plutôt un avis personnel, moi je m'aperçois que les questions qui montent aujourd'hui, elles dépassent de beaucoup le simple monde du travail. Donc elles appellent obligatoirement à travailler des revendications qui soient propres aux salariés, à les travailler en réflexion, en discussion avec des demandes sociétales qui ne peuvent pas être déterminées par les seuls salariés. Alors ça va très loin de dire ça, hein, ça peut... Beaucoup de camarades dans la CGT ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Bon, c'est encore une fois, c'est une analyse personnelle. Mais je pense qu'on ne fera pas l'économie de ces... Bon, par exemple, les cheminots ont bien compris que pour défendre leurs revendications, il fallait qu'ils défendent la qualité du service public offert aux usagers. Sinon, bah, pour cela, que ce soit public ou privé, ils s'en fichent un peu. Donc on voit bien que là, pareil pour, on parlait de l'agriculture, de l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'on mange, comment on se nourrit, on voit bien que là, il y a forcément un lien entre revendications des salariés de l'industrie agroalimentaire et puis ce que vivent les consommateurs d'une part et les producteurs que sont les paysans d'autre part. On a plein d'exemples comme ça où on ne peut plus avoir, on ne peut pas simplement s'enfermer sur soi-même et avoir une réponse qui soit la seule défense des avantages acquis, du statut. Ça, c'est un peu... mais bon, peut-être que le prochain congrès de la CGT avancera sur ces questions. À mon avis, c'est incontournable. C'est une question... à la limite anthropologique. On est à un tournant de civilisation, on est face à des défis anthropologiques, et donc les organisations syndicales, si elles veulent survivre, eh bien elles doivent se réformer profondément pour s'ouvrir, ce que la CGT essaye d'ailleurs de faire depuis un certain nombre d'années. Hein. Les débats avec Greenpeace, par exemple, sur l'énergie, c'est des débats contradictoires, compliqués, mais il y a débat. Il faut qu'il y ait débat.
Merci beaucoup Jacques pour cet éclairage sur l'évolution du rôle des régions. La conférence régionale au mois d'avril a mis cette question au centre de ses débats. Partant du constat que la possibilité de déroger aux règles nationales était maintenant une réalité, notre ambition est donc de la mettre maintenant au service des besoins et des revendications plutôt que la laisser aux mains du capital. Comme tu l'as dit, les régions sont au cœur d'un rapport de force entre les puissances économiques et les citoyens qui votent pour cet exécutif. À nous, et avec d'autres forces, syndicales, associatives et même citoyennes, de peser sur la balance et de co-construire de véritables alternatives aux politiques néolibérales. Par notre expertise commune syndicale sur le monde du travail, la CGT est une force incontournable. La conférence régionale a donc voté à l'unanimité une feuille de route pour les années à venir proposant de construire des projets syndicaux alternatifs dans les territoires, départements, unions locales, avec les syndicats, dans le but ensuite de les partager et de les enrichir avec d'autres acteurs, et ainsi de faire monter le rapport de force. Projet d'industrialisation, projet de développement des services publics, projet autour du transport, de l'énergie, de la santé, du logement, de la culture, etc., etc. Pour bien vivre et bien travailler en Auvergne-Rhône-Alpes. La liste est infinie et notre capacité d'imagination collective sans limite. Merci pour votre écoute. Cette émission est terminée. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'industrie automobile. Mais avant de nous quitter, nous vous proposons une poésie de Claude Roy, Le vent qui vole et va. Le vent commence des phrases et ne sait pas les finir. Il retombe, il réfléchit dans le silence. Il essaye de retrouver sa trace là où son souffle s'élança. Il prend une grande respiration fraîche et recommence à galoper, en s'ébrouant comme dans l'eau. Puis, il retourne au calme lent et se repose sans rien dire. Le vent va, le vent vient, le vent souffle et se tait. Il voudrait bien dormir, mais n'y arrive pas. Le vent est très vivant, beau vent qui vole, et vole, et va, qui court aux quatre ventres. La radio.